Vous écoutez, on lit pour vous.
Préserver le français en le faisant évoluer, un texte de Leïla Jolin-Dahel, paru le 22 juin 2024 dans Le Devoir. Alors que l'utilisation du français décroît au Québec, l'Office québécois de la langue française continue sa lutte contre l'anglicisation de la langue. L'organisme travaille d'ailleurs d'arrache-pied dans le but de conserver et de créer des termes dans la langue de Molière afin de l'adapter à l'évolution des populations et des technologies. Chaque année, de nombreux mots, provenant notamment de l'anglais, font leur apparition dans la langue française. L'OQLF a pour rôle de cibler les besoins terminologiques afin de rendre les équivalents français disponible, résume Xavier Darras, coordonnateur de la production linguistique à l'OQLF. Face à l'anglicisation, le risque est d'ailleurs de continuer à vivre en français, croit de son côté Monique Cormier, professeure émérite au département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal. Quand on est à l'extérieur de Montréal, on s'en rend un peu moins compte. Mais lorsqu'on est dans la métropole, il y a de grands défis en matière d'utilisation de la langue, estime-t-elle. Le taux de Québécois parlant principalement le français à la maison est passé de 81 % à 79 % entre 2016 et 2021, selon l'OQLF. La part de la population connaissant suffisamment la langue de Molière pour soutenir une conversation a également diminué. Pour Madame Cormier, ce ne sont pas les anglicismes qui sont la cause de ce déclin, mais le recours au français tout court, spécialement dans les grands centres urbains. Ce qui pose problème, notamment, c'est qu'à un moment donné, on ne distingue plus ce qui est en anglais de ce qui est en français. Finalement, on commence à intégrer l'anglais sans trop s'en rendre compte, dit-elle. Une course contre la montre. Afin d'adapter les nouveaux termes à la langue française, l'OQLF s'active sur deux fronts. Premièrement, il œuvre dans la terminologie thématique en produisant des mots pour des sujets techniques tels que l'informatique quantique, la réalité virtuelle, l'économie circulaire, etc. Depuis 2020, on a fait à peu près une quarantaine de vocabulaires spécialisés qui visent à rendre cette terminologie disponible dans le but que tout le monde puisse s'exprimer en français au travail, calcule M. Darras. Ces mots sont toujours créés en collaboration avec des experts des domaines concernés afin d'en valider le contenu. Après, on s'appuie sur des partenaires des secteurs privés, publics et universitaires pour qu'ils diffusent également ces vocabulaires dans leur milieu, ajoute le linguiste. Certaines demandes proviennent parfois directement des entreprises elles-mêmes afin de trouver de nouveaux mots en français pour leur quotidien en contexte professionnel. Le nerf de la guerre, c'est la rapidité. Il s'agit de faire juste à temps, et de rendre les termes disponibles au moment où les locuteurs en ont besoin, souligne M. Darras. Intervenir promptement reste donc crucial, afin d'éviter que des formulations, d'ailleurs, ne s'inscrivent dans l'usage courant. Là où c'est problématique, c'est lorsqu'un mot anglais va entrer dans la langue, en français, mais qui vient faire concurrence à un autre terme, croit Mme Cormier. Elle cite en exemple l'expression « payer cash » plutôt que de « payer comptant » ou « en espèces ». Toutefois, plusieurs mots étrangers ont été acceptés depuis longtemps, tels que « football » ou « camping ». La professeure fait également valoir que certains, comme « packet boat » devenu « paquebot », sont transformés pour évoluer en autre chose dans la langue de Molière. Diffusé au plus grand nombre, l'OQLF diffuse sa terminologie et ses usages conseillés à travers la vitrine linguistique, disponible sur le web, et qui combine la banque de dépannage linguistique et le grand dictionnaire terminologique. Le premier se concentre sur les termes préconisés pour une bonne rédaction, avec des notions de grammaire, d'orthographe et de syntaxe. Le second se penche sur le vocabulaire technique de certains domaines professionnels. On reçoit des milliers de questions de gens chaque année. Et quand on y répond, la plupart du temps, on essaie ensuite de rendre l'information accessible au plus grand nombre, indique M. Darras. On effectue aussi une veille terminologique, ajoute M. Darras. Ainsi, les linguistes de l'OQLF fouillent les périodiques, la documentation spécialisée, dans le but de repérer les nouvelles réalités linguistiques. Dans bien des cas, on se rend compte qu'il existe déjà des termes en français pour les désigner, précise-t-il. De son côté, Mme Cormier a mis sur pied une formation en ligne, Les Indésirables, anglicisme du domaine de la gestion, ouverte à tous depuis l'année dernière, afin de fournir des termes français pour remplacer des anglicismes dans l'usage courant. À ce jour, environ 1500 personnes ont suivi la formation. C'est gratuit et c'est à faire simplement par souci du français, résume la professeure. Et devant l'évolution de la langue française, Mme Cormier reste optimiste et souhaite présenter des solutions concrètes. Je me dis qu'il suffit de proposer aux gens des outils. C'était « Préserver le français en le faisant évoluer », un texte de Leïla Jolin-Daël, paru le 22 juin 2024 dans Le Devoir.
Les changements climatiques augmentent les risques d'une autre pandémie. Un texte de Scott Dance du Washington Post, paru le 13 mai 2024 dans Le Devoir. En dégradant l'environnement terrestre, l'humain a créé un monde dans lequel les maladies sont de plus en plus susceptibles de se développer et de se multiplier. Les insectes qui propagent les infections, les moustiques et les tiques, par exemple, prospèrent sur une planète réchauffée par les émissions de combustibles fossiles. Lorsque la pollution, la chasse ou l'intervention humaine poussent des organismes rares à l'extinction, les parasites prolifèrent parce qu'ils ont évolué pour cibler les espèces les plus abondantes. Et puis, il y a les dommages causés lorsque l'humain introduit des plantes et des animaux non indigènes ou des produits chimiques tels que des herbicides et des fongicides dans des écosystèmes fragiles. Selon une étude publiée le 8 mai 2024 dans la revue Nature, ceux-ci exacerbent les pertes de biodiversité qui rendent les populations qui survivent plus vulnérables aux maladies. Selon les chercheurs, cette étude est la première à examiner comment une telle variété de problèmes environnementaux peut aggraver les risques de maladies. Elle combine des centaines d'études et des milliers d'observations de toutes sortes d'êtres vivants, humains et autres mammifères, poissons, reptiles, amphibiens, vers et arthropodes, et de toutes sortes d'agents pathogènes tels que les virus, les bactéries et les champignons. L'analyse a renforcé les conclusions d'un grand nombre de ces recherches. Un monde plus chaud dont les écosystèmes sont ravagés est plus propice aux nombreux parasites, mais moins hospitalier pour l'humain et d'autres formes de vie. La relation est observable, avec tous les types d'infections et leurs hôtes, ce qui suggère qu'à mesure que la planète se réchauffe et que l'humain continue de perturber la nature, la propagation des maladies sera constante et généralisée, a déclaré Jason Rohr, professeur de sciences biologiques à l'Université de Notre-Dame et l'un des auteurs de l'étude. La relation est tout aussi claire avec les humains qu'avec la faune et la flore, a-t-il ajouté. Et ce, malgré tous les efforts que nous déployons pour contrôler et prévenir les maladies, a déclaré M. Rohr. si les maladies deviennent plus répandues dans le monde animal, cela pourrait signifier que la probabilité d'événements de débordement exposant les humains à de nouveaux agents pathogènes augmentera également, suggère l'étude. C'est notamment le cas pour l'origine probable de la COVID-19 et un résultat redouté de la propagation actuelle de la grippe aviaire H5N1. Cela pourrait signifier qu'en modifiant l'environnement, nous augmentons les risques de pandémie future, a déclaré M. Rohr. Protéger la planète. Aussi sombres que puissent paraître ces résultats, les chercheurs soulignent que les actions visant à protéger la planète peuvent également contribuer à améliorer la santé. Cela vient s'ajouter à une très longue liste de raisons pour lesquelles nous devrions rapidement abandonner les combustibles fossiles et tenter d'atténuer les effets des changements climatiques, a déclaré Felicia Kissing, professeure à l'Université Bard, qui n'a pas participé à l'étude, mais dont les recherches portent sur la biodiversité et les risques de maladies. L'étude s'est appuyée sur des observations de l'évolution de maladies impliquant une grande variété de parasites infectant un large éventail d'hôtes dans le monde entier. Les observations comprenaient également des informations sur une série d'influences humaines sur l'environnement, modifications de la biodiversité, pollution chimique, changement climatique, perte ou modification de l'habitat et introduction d'espèces non indigènes. La biodiversité est présente selon une échelle naturelle sur la planète, c'est-à-dire que le plus grand nombre d'espèces se concentre près de l'équateur et à des altitudes modérées. Les chercheurs ont évalué l'effet de la perte de biodiversité causée par l'humain sur les maladies en comparant les observations d'infections dans le monde entier à la prévalence moyenne des maladies à différents niveaux de biodiversité sur cette échelle naturelle. Dans la nature, les pertes de biodiversité sont associées à des réductions des maladies. Mais lorsque l'intervention humaine entraîne une perte de biodiversité, les maladies augmentent. Les chercheurs ont constaté que les niveaux de maladie et de mortalité dans les environnements touchés par les pertes de biodiversité causées par l'humain étaient près de 9 fois plus élevés que les résultats attendus dans l'échelle de biodiversité naturelle de la Terre. Selon M. Rohr, cela s'explique probablement par le fait que la disparition d'êtres vivants plus rares permet aux agents pathogènes de trouver plus facilement les espèces plus abondantes qu'ils ont appris à utiliser comme hôtes. L'impact des espèces non indigènes. Les chercheurs ont également constaté que les changements climatiques et l'introduction d'espèces non indigènes ont des liens significatifs avec l'aggravation de la propagation des maladies, bien qu'ils ne soient pas aussi forts que l'effet de la perte de biodiversité. L'analyse a mis en évidence une variable de l'influence humaine qui a, quant à elle, diminué les risques de maladies. Les pertes d'habitat. Selon M. Rohr, les chercheurs pensent que cela est dû en grande partie à l'urbanisation. Les villes ont tendance à disposer de meilleures infrastructures sanitaires et de santé et elles abritent tout simplement moins d'organismes naturels. Skylar Hopkins, professeure adjointe à l'Université d'État de Caroline du Nord, qui n'a pas participé à la recherche, a mis en garde contre une application trop générale des résultats de la recherche. Les analyses comme celle-ci sont composées d'une sélection d'études achevées, mais ne peuvent pas représenter un échantillon véritablement aléatoire de pathogènes et d'infections, a-t-elle déclaré. Tous les parasites ne sont pas mauvais, a-t-elle ajouté, et l'on ne peut pas non plus supposer que la réparation de la biodiversité perdue annulera l'augmentation des maladies. Les recherches publiées le 8 mai 2024 s'appuie sur des résultats antérieurs qui établissent un lien entre la propagation des maladies et des changements globaux précis. On sait, par exemple, que les chaleurs et les précipitations extrêmes liées aux changements climatiques d'origine humaine ont provoqué l'augmentation des cas de paludisme et qu'elle pourrait les faire augmenter de manière encore plus spectaculaire dans les décennies à venir. On sait que les pertes de biodiversité contribuent à la propagation de maladies telles que la COVID-19, le VIH-SIDA, le virus Ebola et le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS. Mais les chercheurs ont écrit qu'il fallait en savoir plus sur la manière dont les nombreux impacts de l'humain sur l'environnement pouvaient se renforcer mutuellement. Par exemple, les changements climatiques et la pollution chimique peuvent entraîner la perte et la modification de l'habitat, ce qui peut à son tour entraîner une perte de biodiversité et faciliter l'introduction d'espèces, écrivent les chercheurs. De nouvelles études devront examiner si ces facteurs, en se combinant, permettent d'ajouter, de soustraire ou même de multiplier les risques de propagation des maladies. C'était « Les changements climatiques augmentent les risques d'une autre pandémie ». Un texte de Scott Dance du Washington Post, paru le 13 mai 2024 dans Le Devoir.
La rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, récit. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Signe de l'hybridité de l'époque, peut-être, d'une volonté testimoniale en expansion, ou encore d'une certaine quête d'authenticité, les récits à connotation littéraire ont la cote ces dernières années. Fort prisés par ceux que la fiction indiffère, voire horripile, ce genre, au spectre d'une largeur à l'éclectisme inouï, gagne chaque année de nouveaux adeptes. Après avoir brillamment revisité Tolstoï dans « Anna, ces trains qui foncent sur moi », le dramaturge Steve Gagnon propose « Genèse d'une révolution sans mort ni sacrifice » chez « L'instant même », un récit narratif à trois voix où une femme ayant quitté la ville pour se réconcilier avec la nature s'ingénie à conjurer l'aliénation du quotidien au fil de réflexions et de discussions impliquant sa mère, son fils et son amoureux. Rebecca McConnell fait son entrée en littérature avec « Dans mon sang » chez Libre Expression, récit émouvant et profond sur la filiation où elle remonte le fil de ses origines avec une sensibilité et une imagination poignantes. Partant de découvertes troublantes sur ses parents et son enfance, l'animatrice dévoile une histoire familiale remplie de secrets sous la forme de fragments déconstruits. Dans « Madeleine et moi », chez Le Méac, Marc Séguin se livre à un pèlerinage artistique et spirituel à travers les églises et les lieux sacrés qui ont inspiré l'œuvre d'Ozias le Duc. Fasciné par une Madeleine repentante du peintre, Séguin se lance dans une quête obsessionnelle pour comprendre et recréer l'essence de cette figure biblique. Entre visites sacrées et moments d'atelier, il ravive la sensualité et la profondeur de l'œuvre de Leduc, cherchant à saisir son geste créatif libre et sans entrave. Christina Gauthier-Landry, à qui on doit déjà le formidable recueil, et Arrivée au bout, nous prendrons racine, fait paraître le don. Chez La Peuplade, campée dans un univers insulaire énigmatique où une femme détient secrètement tous les dons essentiels, le silence, la souplesse, les souvenirs et surtout l'amour. En célébrant les liens entre des générations de femmes discrètes dans une prose indocile et lumineuse, la poète bouscule les conventions pour affirmer son existence. Avec « Mon père est un pigeon voyageur » chez Libre Expression, Francine Ruelle offre le pendant masculin, une décennie plus tard, du récit autobiographique amorcé avec « Ma mère est un flamant rose ». Par le truchement d'une prose poétique et émotive, l'autrice évoque les souvenirs d'une enfance marquée par l'absence paternelle et tisse les fils de son histoire familiale tout en remettant en question l'image qu'elle s'est forgée de cet homme mystérieux qui a disparu de sa vie quand elle n'avait que 7 ans. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, récit. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
« 39 décès liés à une intoxication aux médicaments depuis le début de l'année », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 31 août 2024 dans Le Devoir. Le Centre anti-poison du Québec affirme avoir recensé depuis le début de 2024 39 décès et environ 800 intoxications ayant eu des conséquences de modérées à sévères qui étaient liés à des médicaments d'ordonnance ou en vente libre ou à des produits de santé naturelle. Ça nous inquiète, car ces chiffres ne sont pas négligeables, dit au Devoir la docteur Maude Saint-Onge, directrice médicale du centre. Des quelques 800 intoxications, la vaste majorité concerne des gens de 13 à 69 ans, mais les plus jeunes et les plus vieux ne sont pas à l'abri. Il peut s'agir, par exemple, d'erreurs dans l'administration ou la prise de médicaments, d'une intoxication accidentelle chez un enfant ou encore d'un abus de substance chez un jeune, explique-t-elle. Il faut se souvenir qu'il y a 72 % des jeunes qui vont commencer leur première consommation d'opioïdes avec des substances qui sont à la maison. Le Centre anti-poison du Québec se dit donc préoccupé par l'accès aux médicaments qu'on trouve à la maison, que ce soit ceux d'ordonnance ou en vente libre, mais aussi aux produits de santé naturelle. En 2023, près de la moitié des 52 000 appels faits au centre étaient liés à ces différentes substances. La docteure Saint-Onge rappelle d'ailleurs que ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Il est important de consulter un pharmacien avant d'utiliser des produits de santé naturelle si l'on prend des médicaments prescrits, dit-elle. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses entre les deux. Heureusement, sur l'ensemble des appels pour intoxication aux médicaments, environ les 2/3 sont des cas que les gens peuvent prendre en charge sécuritairement à la maison avec l'aide des professionnels du centre, dit la médecin. On est quand même capable de diminuer les consultations aux urgences. Un besoin de conscientisation. Chez elle, Julie Daigle-Côté rappelle fréquemment à sa fille de 2 ans que les pilules ne sont pas des bonbons. Ici, le mot d'ordre, c'est que ça peut être très dangereux de prendre de la médication qui ne t'est pas destinée, raconte la femme de 29 ans. Elle garde d'ailleurs tous les types de médicaments dans une armoire verrouillée. Cette pratique semble toutefois peu courante. 85 % des parents affirment ne pas placer leurs médicaments sous clé et hors de portée de leurs enfants sur une base régulière, selon un sondage réalisé par Angus Reid en 2023 auprès de résidents de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec. Dans la majorité des familles, on va savoir où est l'alcool à la maison et quelle quantité il y a dans les bouteilles. On va aussi avoir une conversation avec nos enfants à ce sujet. Mais pour les médicaments, on les laisse souvent accessibles dans notre pharmacie, soulève Chantal Valerand, directrice générale de Jeunesse sans drogue Canada. Il est important de conscientiser les enfants au risque des médicaments dès un jeune âge, affirme Madame Valerand. Pour ce qui est des adolescents, elle suggère aux adultes d'aborder la question avec eux sans être alarmiste. L'idée est d'aller à la rencontre des jeunes en vérifiant ce qu'ils savent sur le sujet, quelles sont leurs sources, et de vraiment traiter ça comme un enjeu de société. Réduire les quantités. Pour réduire les risques d'intoxication, la docteure Maude Saint-Onge nous recommande de ne pas acheter de médicaments dans des emballages grand format. Ça a bien été démontré que limiter l'accès à la quantité va diminuer la sévérité des intoxications. Donc, ça peut ne pas être banal, ça peut éviter de se retrouver aux soins intensifs. Quant aux cachets prescrits aux enfants et aux adolescents, ils peuvent être placés dans un pilulier sur lequel les jours de la semaine sont écrits, conseille Audrey Elliott, pharmacienne au Centre Antipoison du Québec. De cette façon, ils n'oublient pas un jour sur deux de les prendre et ils n'ont pas accès au mois complet. Afin d'éviter d'accumuler les médicaments, il est aussi recommandé de les trier au moins une fois par an, souligne Alain Renard, directeur des programmes de gestion à l'Association pour la récupération de produits santé. Ceux qui sont inutilisés ou périmés doivent être rapportés à la pharmacie, indique-t-il. Une partie importante des Québécois et des Canadiens ignore qu'il ne faut pas jeter de médicaments à la poubelle, dans l'évier ou dans la toilette, poursuit M. Renard. Malheureusement, il pourrait y avoir des effets sur la nature, sur les espèces animales et sur la qualité de l'eau. Il y a un problème environnemental de pollution lié à la récupération des médicaments, ajoute-t-il. C'était 39 décès liés à une intoxication aux médicaments depuis le début de l'année, un texte de Florence Morin-Martel, paru le 31 août 2024 dans Le Devoir.